France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Intellectuel engagé, témoin et acteur important du XXe siècle, né presque en même temps que lui, en 1897, Jean Cassou aura marqué le monde des arts et des lettres françaises par son indépendance, sa curiosité, son goût de la liberté. Poète, romancier, critique d'art, historien, secrétaire de Pierre Louys, résistant, conservateur en chef du Musée national d'art moderne de la ville de Paris, il se définissait quant à lui comme un homme sans possession, héritage ni titre, sans statut social, sans métier véritable. En 1985, quelques mois avant sa mort, il racontait à Jacques Bince ses souvenirs de l'entre-deux-guerres dans une série de 5 émissions. Dans le dernier volet d'entre elles, il évoquait en particulier ses premiers pas dans le domaine des lettres et de la critique d'art, ses souvenirs de Saint-Germain-des-Prés et de Montparnasse à cette époque, mais aussi ses liens indéfectibles avec l'Espagne, le pays d'origine de sa mère, et son amitié avec des écrivains tels que Georges Guillén, Pedro Salinas, Rafael Alberti ou Federico Garcia Lorca. Jean Cassou ou la vocation d'écrire, première diffusion sur France Culture le 24 novembre 1985.
La vocation d'écrire. Entretien avec Jean Cassou par Jacques Bince. Réalisation Odile de Pontual. Collaboration technique Michel Galou, Jean Daniel et Pierre Guérineau. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, à ce moment-là ?
Eh bien, mais à ce moment-là, alors, je fais ce que fait un jeune homme pauvre et qui ne sait pas comment s'en tirer la vie, qui vit de besogne, d'expédients, de traductions, de leçons, par-ci, par-là, prépare des examens. Je suis fonctionnaire. Je suis fonctionnaire. C'est d'ailleurs le truc qu'employaient les écrivains de l'époque naturaliste, pas de l'époque de Maupassant. Oui. De Maupassant, après ça de Charlie Philippe, etc. Tous les écrivains, les romanciers, etc., étaient des fonctionnaires de la ville ou de l'État. Ils étaient chefs de bureau. Huysmans, c'était un chef de bureau. Alors, la voie était tout indiquée pour un garçon qui a réussi à passer sa licence, évidemment, qui ne peut pas tout de suite aspirer à avoir un traitement considérable, parce que c'est assez misérable. La vie de fonctionnaire, de simple rédacteur au ministère de l'Instruction publique. Enfin, c'est la tranquillité. Et alors, par ailleurs, il peut faire de la littérature. La question du double métier, à ce moment-là, s'est beaucoup posée. Ils avaient tous envie de faire de la littérature, les jeunes gens, à ce moment-là. Ils avaient tous envie d'écrire. Ils avaient envie de faire de la peinture. Ils avaient envie de faire de la musique. Et ils avaient envie de faire toutes sortes de choses comme ça. Et de les faire naturellement dans le sens subversif, dans le sens révolutionnaire, dans le sens de la nouveauté, et de la création neuve, et de l'avant-garde, et des petites chapelles, etc. Mais en même temps, il faut vivre. Il faut vivre. Alors, on fait toutes sortes de métiers à côté, on est pion, on est professeur, on est dans l'université, ou bien dans l'administration. Et ambassadeur, n'est-ce pas? On peut également...
Il y en a quand même moins qui étaient ambassadeurs.
Dedans, il y a les plus considérables de notre époque.
Oui, mais ils sont moins nombreux que les rédacteurs à l'Instruction publique.
Non, moins nombreux, certains, mais il y a moins d'ambassadeurs aussi.
C'est ça.
Alors, tout de même, c'est assez brillant. N'est-ce pas ? Saint-Jean-Perse, Claudel, Giraudoux, tout ça, c'est pas mal. Ce sont des gens tout de même considérables et qui travaillaient beaucoup. Simplement expéditionnaire dans un service de la préfecture de la Seine, ou du ministère des Transports, voilà.
Qui sont les gens que vous avez rencontrés d'abord ? Qui sont les premières personnes que vous avez rencontrées ?
Tout le monde.
Mais c'est trop facile de dire
si,
tout le monde.
Si, non, au contraire, c'est ça qui est accessible. Parce qu'il n'y a pas à rencontrer, on vit. On vit une époque, on dit bonjour à tous les gens qu'on connaît, et il y a des endroits où les gens se rencontrent. Et ces endroits où les gens se rencontrent, c'est la rue et c'est le café.
Alors, quelle rue, quel café ?
Saint-Germain-des-Prés et Montparnasse et Montmartre. J'ai habité Saint-Germain-des-Prés. Ma femme habitait Saint-Germain-des-Prés. Et notre fille est née à Saint-Germain-des-Prés. C'est-à-dire au coin de la rue du Four, et de la rue...
De Rennes ?
Oui,
et de la rue de Rennes. Au-dessus du bureau de poste ?
Au-dessus du bureau de poste. Le matin, quand elle faisait son ménage, ma femme, par la fenêtre, voyait les deux magots. Et après, elle me disait, « Ah, tu sais que Roger Vitrac vient de rentrer aux deux magots. » Ah bon, très bien. Et puis, 10 minutes après, elle me dit, « Tu sais que Roger Vitrac vient de sortir des deux magots. » Puis après ça, oui. « Ah, Roger Vitrac vient de retourner aux deux magots. » C'était ça ce qui se passait à Saint-Germain-des-Prés, n'est-ce pas ? Et dès qu'elle sortait pour aller faire ses courses là-bas dans le marché voisin.
Marché Saint-Germain ?
Le marché Saint-Germain, et puis là-bas le marché derrière l'Odéon, là, par là.
Ah, Bussy, rue de Bussy.
Bussy, on ne manquait jamais de rencontrer un poète surréaliste ou dadaïste, ou ce que vous voulez, n'est-ce pas ? Qui venait l'embrasser et lui proposer d'aller prendre un verre au magot. Et Saint-Germain-des-Prés avait un climat extrêmement riche, de même alors que Montparnasse, c'est quelque chose qu'il faut avoir vécu pour vraiment savoir ce que c'était. Il faut avoir vu ce que c'était que la Rotonde, qui au début était un tout petit bistrot, avec simplement le bar, le comptoir, et puis au dehors, deux tables en fer avec trois chaises. Et puis ça est devenu une chose formidable. En face, le dôme et le bureau de tabac. Et tout cela s'est agrandi, s'est levé. Puis alors, il y a eu dans les années, comme ça, 20 quelque chose, 24, 25, je ne sais plus, la fondation de la coupole. Et alors, les bourgeois ont cessé d'aller dans des bars des Champs-Élysées. Ils ont continué à y aller. Il y avait aussi les bars des Champs-Élysées. Mais ils ont pris l'habitude d'aller à la coupole, d'aller chez les artistes, et de se mêler. Et de se mêler au monde bigarré et cocasse des artistes. Et cette vie de Montparnasse a été quelque chose de très singulier, de très particulier, et le souvenir en demeure extrêmement vif chez ceux qui l'ont vécu.
Par écrire des articles de...
Alors oui, de critique d'art. De critique d'art. Parce que alors, c'est sous la forme des révolutions plastiques.
Dans quelle publication ?
Vous souvenez ? Les publications qui se créaient. Nous les faisions, les publications. Elles se faisaient, n'est-ce pas ? Elles se faisaient. Alors, c'était aussi bien de toutes petites revues qui duraient 3 numéros que des grosses revues de bibliophilie extrêmement chères, admirablement présentées, avec une typographie excellente. Et ceci s'est accompagné, d'ailleurs, d'une grande capacité de création dans le domaine de la bibliophilie, de la typographie, des publications de luxe. Alors, la critique d'art, c'est quelque chose d'extrêmement amusant, extrêmement important. Alors là, ça nous a permis, à nous jeunes écrivains, de faire de la critique d'art, ce qui est extrêmement difficile, ce qui est extrêmement intéressant, d'ailleurs. Et c'est un exercice de l'esprit qui a été créé et développé d'une façon prodigieuse par Baudelaire. Tout est sorti de lui, sorti de Baudelaire. Et alors ça a produit toute une littérature très foisonnante, très très riche et extrêmement amusante, parce que toute cette vie artistique est extrêmement amusante, parce qu'il y avait d'une part les suites de l'art maudit et de la misère et du suicide de Modigliani, de l'alcoolisme et de tout cela, n'est-ce pas ? Comme ça s'était produit à Montparnasse et à Montmartre, mais en même temps, les prodigieuses créations spirituelles d'hommes de génie, qui étaient Braque, qui étaient Léger, qui étaient Brancusi, qui étaient Picasso, qui étaient Matisse, qui étaient etc. N'est-ce pas ? Enfin, les plus grands noms de l'art de l'époque, et parmi les plus grands noms de toute l'histoire de l'art universel, et ça. Et puis alors, d'un autre côté, le rapport de ça avec le monde extérieur. Alors, le monde extérieur, c'est la presse, donc la critique joue un très grand rôle là-dedans. Les amateurs, le marché, parce que tout de suite, des prix ont monté, des cotes se sont établies, et tous ces gens qui avaient vécu dans la misère, et ce qui était pour certains d'entre eux extrêmement aisé, parce qu'il y en avait qui pouvaient être issus de sociétés, d'une société bourgeoise riche, mais aussi d'autres qui, au contraire, venaient, ceux qui venaient des ghettos de Pologne, de Hongrie, c'était pas drôle.
Jean Cassou, en même temps, après ou en même temps au fond que les écrits sur l'art, il y a tout un tas de réflexions importantes sur l'Espagne.
Oui, mes premiers écrits ont été de la critique d'art, des articles de critique d'art, avec toute la nouveauté que cela impliquait. La critique d'art étant un exercice tout à fait neuf à ce moment-là, qui avait été créé récemment d'ailleurs, le maître et l'origine de toute cette façon de s'exprimer et de tout cet exercice spirituel et philosophique qu'est la critique d'art, c'est Baudelaire. Mmh. Tout sort de là. Hein, tout sort de là. Et c'est le maître incontesté en cette matière. Bon, alors, la critique d'art, ça a passionné toute ma génération, et tant plus qu'il s'agissait de marquer par l'intérêt que l'on portait à la critique d'art la nouveauté de ce qui se passait à ce moment-là dans tous les domaines, parce que ce qui se passait en peinture, ça se passait en musique, ça se passait en architecture, ça se passait dans toutes sortes d'autres domaines, dans le domaine de la philosophie, dans le domaine des sciences. Et puis, alors, pour ce qui est de ma activité personnelle et de mon développement personnel, à ces écrits sur la critique d'art, et je dois ajouter mes écrits sur l'Espagne, sur la littérature espagnole et sur la culture espagnole, peinture, musique, etc. Et l'Espagne même, la réalité espagnole. Mes origines espagnoles se sont à ce moment-là réveillées et j'ai senti que l'Espagne est une réalité spirituelle d'une importance énorme, extrêmement originale, et sur laquelle, moi, je pouvais avoir des vues personnelles.
Vous avez parlé espagnol assez jeune ?
Ma mère parlait espagnol, comme mon père avait passé son enfance, était né au Mexique, avait passé son enfance au Mexique, il parlait espagnol. Alors, il parlait espagnol avec ma mère, et je les entendais toujours parler espagnol entre eux.
Vous avez donc appris à parler dans votre famille.
Dans ma famille. Et ma mère, elle nous parlait toujours en espagnol à ma sœur et à moi. Nous répondions souvent en français, voilà tout.
Mais l'espagnol, c'est un peu une langue maternelle.
C'est une langue maternelle. Et alors, c'est la langue de ma mère. Et tout mon côté maternel s'est épanoui de ce côté-là. Alors, avec l'amour de l'Espagne, de la mère Espagne, ce rapport fils à mère, après cet aspect-là, ma filiation espagnole. Et alors, je me suis passionné de l'Espagne. J'ai passé une licence d'espagnol à la Sorbonne, là, et j'ai étudié l'espagnol en même temps que je le lisais, que je le parlais, et que je me passionnais pour ce qui se passait à ce moment-là en Espagne, qui, du point de vue intellectuel, comme du point de vue plastique, comme une sorte de point de vue, était extrêmement neuf. Extrêmement révolutionnaire. C'était l'époque de la génération de 98, Unamuno, Antonio Machado, etc. Et puis alors, des poètes de ma génération, comme Georges Guillén, Pedro Salinas, Rafael Alberti, Federico, Garcia Lorca, le héros et le martyr de la guerre civile plus tard, eh bien, tous ces poètes-là ont été mes premiers amis. C'était mes premiers amis et j'étais l'un de leurs compagnons, de leurs premiers compagnons.
C'est parce qu'ils étaient venus en France ou parce que vous étiez allé en Espagne ?
Non, j'étais très très peu en Espagne.
C'est eux qui étaient à Paris, vous les avez connus.
C'est eux qui venaient, oui, qui sont venus à Paris. Pedro Salinas, puis Georges Guillén, qui faisaient leurs études, avant de devenir les grands professeurs de l'université espagnole qui sont devenus, étaient lecteurs à la Sorbonne, et étaient passionnés de littérature française. Et il faut se dire que la littérature française, la poésie française, le symbolisme, Mallarmé, Rimbaud, Verlaine, tout cela, avait à l'étranger un retentissement énorme. Et en Espagne, ça a été prodigieux. Ça a eu une influence énorme. Et influence, oui, mais en même temps, il y a eu quelque chose de plus profond dans tout ça, et de plus actif, de plus animé, si vous voulez. Ça a été une relation, de relation fraternelle et intime entre les curiosités, les recherches, les ambitions du jeune génie espagnol et du jeune génie français. Si je pense à Federico Garcia Lorca, eh bien, je pense à lui comme à quelqu'un des miens. Et je me considère, moi, comme étant de sa famille et ayant eu avec lui des relations fraternelles, comme j'en ai eu avec tous les amis qui étaient ses amis à ce moment-là. La vie culturelle espagnole avait un caractère amical et fraternel qu'il nous est assez difficile de comprendre et d'imaginer, mais dont nous sentons toute l'admirable importance. Et tout ceci avait été précédé par la génération de 98, celle d'Unamuno, celle d'Antonio Machado et d'autres esprits extrêmement importants, comme alors dans la génération subséquente, l'influence d'Ortega y Gasset, c'est pas du grand philosophe Ortega y Gasset. Il y avait là tout un réveil de la pensée espagnole, extraordinairement intéressant et excitant pour l'esprit, parce que à ce moment-là, l'Espagne s'est interrogée sur elle-même et elle s'est demandé qu'est-ce que l'Espagne et qu'est-ce que c'est qu'être espagnol. C'est ça la signification qu'a prise alors la culture espagnole. Qu'est-ce que nous sommes ? Nous sommes des Espagnols. Ça veut dire être espagnol. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et qu'est-ce que c'est que l'Espagne ? Qu'est-ce que c'est que cette réalité-là ? Réalité en effet extraordinairement étrange, avec toute cette convivence judéo-arabo-chrétienne, etc. Enfin, ça, je ne vais pas ici en deux minutes vous redire tout ce que j'ai analysé, écrit, étudié dans mes articles de ce temps-là sur la culture espagnole, sur l'intérêt qu'elle pouvait avoir pour nous Français. Et alors, j'ai commencé à avoir là des amitiés espagnoles extraordinairement vives qui ne m'ont pas quitté depuis ce temps-là. Parce que tous ces poètes-là, tous ces écrivains-là, ceux de la vieille génération comme Unamuno et Machado, aussi bien que ceux de ma génération à moi, ont souffert la guerre d'Espagne et puis après ça ont connu l'exil ou bien la mort, comme Lorca et comme d'autres, et qui sont morts en prison et qui ont été emprisonnés et puis qui ont été opprimés là-bas en Espagne ou qui se sont tous exilés. Il y a eu cet exil énorme, cette émigration formidable de toute la culture espagnole, des savants, des archéologues, des chimistes, des philosophes, des astronomes, des mathématiciens, tous les penseurs et tous les savants espagnols ont été chassés par Franco de l'Espagne et ont continué leur œuvre dans les universités des États-Unis ou des pays latins.
Alors ça s'est passé beaucoup plus tard.
Ah, mais ça commence là.
Oui.
Ça commence là. Et c'est quelque chose que j'ai senti et que j'ai vécu. Que j'ai vécu jour à jour, jusqu'à la guerre d'Espagne et ses suites. Et les suites de la guerre d'Espagne ne s'expliquent que parce qu'il y a eu ça. Que parce qu'il y a eu ça dans les années 25.
À quelques années de là, les années 30 cette fois, une nouvelle aventure commençait pour Jean Cassou, celle du Musée National d'Art Moderne. Puis une autre encore, plus héroïque bien sûr, celle de la Seconde Guerre mondiale et de la Résistance. Mais il s'agit là, on le devine, d'une toute autre histoire, aussi belle, aussi riche, que Jean Cassou nous racontera peut-être un jour. C'était La vocation d'écrire, une série d'entretiens avec Jean Cassou par Jacques Bins, réalisation Odile de Pontuel, collaboration technique Agnès Boissonnade, Michel Galou, Jean Daniel et Pierre Guérineau.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 24 novembre 1985.